EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. La parole de Dieu est remplie de mystères, mais nous a donné son esprit pour que nous puissions comprendre et ses serviteurs pour rendre ces choses plus claires pour nous. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement la parole de Dieu dans votre vie quotidienne de disciple. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à apprendre comment comprendre les paraboles, en particulier les paraboles de Jésus-Christ. Je vous ai dit que c'était une grosse introduction générale à la manière de comprendre les paraboles, mais des bases solides pour démarrer quelque part, en attendant que le Seigneur nous accorde encore d'autres jours pour que nous ayons de plus en plus en profondeur sur ce sujet. Aujourd'hui, pour finir, nous allons donc parler de comment pratiquer cela, l'application finalement. Si on a observé, on a interprété, on fait quoi? Comment rendre ces paraboles vivables dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Commençant, je voudrais déjà parler de quelques vérités, des bases qui vont permettre de résumer tout ce qu'on s'est dit, mais de préparer aussi notre cœur ou notre pensée à l'enseignement que j'aimerais donner aujourd'hui. La première de vérité, c'est que toutes les paraboles de Jésus ne visent pas forcément un individu. Quand Jésus-Christ explique ses paraboles, toutes ces paraboles ne sont pas individualisables. C'est-à-dire que certaines de ces paraboles sont des paraboles pour tout un peuple. Il ne s'adresse pas à une personne en particulier, il s'adresse à une catégorie de personnes. Il s'adresse à des peuples, il s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, toutes les paraboles ne visent pas la pratique d'un individu. Ça ne vise pas la personne toujours en particulier. Ça vise une saison, ça vise une période, ça vise une saison. Alors, toutes les paraboles ne sont pas nécessairement individuelles ou individualisables. Deuxième vérité, certaines paraboles de Jésus contiennent des prophéties de son retour. À ce niveau, vous devez savoir que certaines des paraboles de Jésus-Christ, quoi qu'il ait présenté comme des paraboles, il les a présentées aussi en réalité à l'intérieur contenant des prophéties, annonçant son retour, annonçant le temps à venir. Souvenez-vous de la parabole des convives, justement, ceux qu'on avait invités ne sont pas venus, puis on a envoyé les serviteurs. Dans une autre version, on envoie même le fils, on finit par tuer le fils. C'était pour les ouvriers, mais dans les convives, on envoie des serviteurs et les serviteurs, il y en a, on tue des serviteurs. Et ce qui se passe, c'est qu'on envoie finalement l'armée qui vient détruire ces meurtriers et puis les serviteurs qui vont dans la rue, dans les carrefours et qui prennent tout le monde et qui ramènent. Et puis le roi entre et se rend compte que l'une des personnes qui est invitée n'a pas porté les habits de fête et le met dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Dans cette même parabole, Jésus-Christ a couvert le passé, le présent et l'avenir au moment où il a été entendu parler. Il a parlé de la période où le Seigneur a envoyé les premiers serviteurs pour amener les hommes à la repentance. Et il a couvert le fait qu'il a envoyé des prophètes et Israël a tué des prophètes. Entre autres, l'idée aussi que Christ, voilà, ça se montre mieux plus dans les serviteurs de l'autre côté, dans la parabole plutôt des vignerons et tout ça là, des serviteurs qui devaient servir la vigne. Mais ici, on voit qu'on a quand même tué des prophètes, on a tué des serviteurs envoyés. Et puis après, vient un moment de grâce où Dieu dépasse seulement le peuple d'Israël, il va chercher tout le monde dans le carrefour. C'était une parole qui vous a été donnée à vous comme des convives, vous ne l'avez pas reçue, Dieu va dans les carrefours, un peu comme Jean le dit. La parole justement est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand le roi entre dans la salle, se rend compte qu'une personne n'a pas la tenue appropriée, il le met dehors. Là, ce n'est pas à ce moment-là que ça se passe. Là, il est en train de prophétiser ce qui se passera dans la fin de temps. le grand jugement final, comment les gens seront mis de l'extérieur. Alors, dans certaines des paraboles de Christ, il y a en fait de la prophétie, un message pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir de l'humanité. Ça, il faudrait tenir compte de ça lorsqu'on veut se préparer à pratiquer ces choses-là. Quelquefois, Jésus nous informe seulement ce qui va se passer dans cette parabole. Alors, aussi, vous devez savoir, le point 3, troisième vérité, quelques paraboles de Jésus s'adressent au peuple d'Israël uniquement. Certains de ces paraboles de Jésus, les interlocuteurs directs, ceux à qui Jésus veut donner la leçon d'abord, c'est le peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est directement en alliance avec eux. Ce qui se passe là-bas n'est pas adaptable à vous à 100%. C'est une promesse qu'il a donnée au peuple d'Israël. Certes, qu'à travers la parabole, la nature de Dieu, la théologie va en être déduite, c'est que Dieu est dans la façon de traiter cette affaire. Ça, c'est un principe imposable à tous. Mais il est possible que certaines de ces promesses soient réellement dédiées exclusivement au peuple d'Israël. Il est important de tenir compte de ça parce que ça influence beaucoup des interprétations. Certaines personnes s'arrachent des promesses qui ne sont pas bibliquement les leurs. Donc, on est là, mes amis, pour se poser la question, que faire? J'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu chapitre 18, verset 21. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Parce que le but ici, c'est qu'on puisse être capable de se dire, que faire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pratiquer cet enseignement? Lisons. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois donnerai-je à mon frère, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à sept fois? » Jésus lui dit, « Je te l'ai dit, pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois, sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qu'il devait sans dénier. Il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant, « Aie pitié envers moi, aie patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Ça, c'est une parabole. Ici, je ne vais pas revenir sur tous les principes qu'on a appris. Contexte immédiat, c'est la question de Pierre. Pierre pose la question sur, combien de fois je dois pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Et serait-ce à sept fois? Contexte historique ici, contexte culturel. On est dans la culture de remettre la dette quand les gens payent. Ce n'est plus le crédit bancaire d'aujourd'hui. Quand les gens payent, s'ils n'arrivent pas à payer leur dette, ils vont le payer de leur vie. On ne le jette pas juste comme ça. C'est-à-dire que pour le créancier a la possibilité de te vendre toi, et avoir le prix de ce que tu es pour couvrir sa dette. Et ici, Jésus-Christ raconte toute une histoire, donc une parabole, juste pour préciser cette leçon qu'il veut donner à Pierre. Pierre, il ne s'agit pas de se poser la question, quel est le quota? Est-ce que j'ai épuisé le nombre des pardons que je pouvais lui accorder? Il s'agit plutôt de se dire que moi aussi, je suis pardonné. Dieu me pardonne, le maître, à qui je dois une plus grande dette, il m'a pardonné. Je devrais pardonner. Ce que Jésus veut expliquer à Pierre ici, c'est que ce que les gens nous font, ce que les autres nous font, n'équivaut jamais à ce que nous, on devrait subir comme punition de ce que nous avons fait. Ça veut dire que quand Dieu nous regarde, nous, le mal que nous avons fait est beaucoup plus grand que le mal que les autres nous font. Nous sommes beaucoup plus condamnables aux yeux de Dieu. Nous devons plus d'argent, plus à payer au maître, au créancier, que ce que nous pensons avoir subi comme douleur de la part des hommes qui nous ont trahis ou qui ont raconté de mauvaises choses à notre sujet. Et c'est ce que Jésus aimerait placer dans la tête de Pierre en lui démontrant que Pierre, en fait, si toi, tu viens devant moi, tu viens devant Dieu, eh bien, écoute, tu as beaucoup de péchés à confesser. Que tu en sois conscient ou pas, tu as commis tellement d'erreurs. Et ces erreurs ne sont même pas comparables aux quelques fautes que tes frères commettent contre toi. Mais pour ça, il a eu besoin de donner toute une image. Et à la fin, il donne sa conclusion finale, la leçon principale, la plus simple à déduire. Si vous ne pardonnez pas à vos frères leurs péchés, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est ce qu'il voulait lui démontrer. Il lui dit, ne pense pas que parce que Dieu pardonne tout ce qu'on fait comme péché, nous, on va là-bas dehors, on se donne la permission de ne pas pardonner les autres. Sache-le bien, quand il apprend que toi aussi, tu ne pardonnes pas non plus, écoutez-moi, frère, la Bible l'a dit, Jésus l'a dit, et c'était clair. Il dit, si chacun de vous, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ailleurs, il est dit encore mieux, il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Vous savez, de fond, on va demander pardon à Dieu, on dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais Dieu dit, il n'y a pas que la condition de mon amour, il n'y a pas que la condition de Christ mort à la croix pour le péché. Il y a aussi la condition de, as-tu pardonné aux autres aussi leurs péchés? Si on raisonnait comme ça au quotidien, on prenait conscience que une partie, en fait, dans notre processus de pardon vers Dieu, une partie de cela est regardée sur la manière dont nous aussi nous accordons pardon. Je crois qu'on aurait moins de rancune. Parce qu'on saurait que je ne veux pas que Dieu soit non plus rancunier vis-à-vis de moi. Alors, belle parabole. Je vais utiliser cette parabole pour que nous puissions répondre à la question « Que faire ? Comment appliquer une parabole ?» Alors, que faire ? Premièrement, devenez destinataire des leçons tirées. Jésus-Christ vient de tirer une leçon claire, cette parabole. Cette parabole ne parle pas à votre voisin. Cette parabole ne parle pas à cette personne qui a des problèmes avec vous. Cette parabole vous parle à vous. Devenez le destinataire principal de chaque parabole de Jésus. Quand Jésus a parlé, c'est à vous qu'il a parlé. N'oubliez pas les vérités que j'ai données fondamentalement. Mais quand vous voulez appliquer bien les paraboles de Jésus, mettez-vous à la place du concerné. C'est à vous que Jésus parle. Si vous lisez la parabole de Jésus juste pour voir le monde en disant « Ah, vraiment, le monde est mauvais, hein ?» C'est vraiment ça. Il y a des gens à qui on a pardonné leurs péchés, ils sont partis, ils font du mal aux autres. C'est pas gentil, hein. Mais non, cette personne-là qui est allée faire du mal aux autres, c'est de toi que Jésus veut parler. Regarde-toi toi-même chaque fois face à la parole en te disant, oh Dieu, sonde-moi, regarde dans mon cœur. Est-ce que je ne suis pas en train de retenir dans mon cœur de, je retiens des frères et des sœurs en prison pour très peu que ce que moi-même j'ai fait. Pour très peu. J'aime bien comment l'apôtre Paul est en train de dire, il a dit, il y a des péchés des uns qui sont connus et ceux des autres qui ne le sont pas. On est là en train de se dire, celui-ci a mal fait, on est en train de fistiger, on dit tout parce que ce qu'il a commis comme erreur ou son scandale est public. Mais Paul dit, il y en a des gens qui font des choses qu'on ne sait pas. Et la raison pour laquelle on ne parle pas, c'est juste parce que ce n'est pas connu. Ça ne fait pas d'eux de meilleures personnes. Devenez destinataire de leçons tirées. Quand vous êtes un lecteur de la Bible vous parle à vous. Vous ne la lisez pas comme un instrument pour aller appliquer juste sur les autres. La Bible vous parle à vous pour que vous puissiez changer et vivre ça. La Bible me parle à moi. La Bible me parle. La Bible parle à vous tous. Tous ceux qui sont devant la parole vous parle à vous. Et Jésus-Christ, quand il est en train de parler ici, ce n'est pas seulement à Pierre. La leçon qu'il donne à Pierre, c'est la leçon qu'il vous donne à vous. Ce n'est pas la leçon qu'il donne à votre voisin. Ce n'est pas la leçon de votre prédication. En tant que prédicateur, j'ai commencé à m'étenir à la chair depuis l'âge de 15 ans, à prêcher l'Évangile. Il n'y a pas une plus grande frustration pour un enseignant, dont il m'arrive d'être quelquefois. Il n'y a pas une plus grande frustration, ça je vous partage totalement mon cœur. Il n'y a pas une plus grande frustration pour un enseignant que de ressentir toujours les gaps qui existent entre ce qu'il sait et ce qu'il vit. En tant qu'enseignant, Dieu n'attend pas que je vive tout ce que je sais. J'apprends par la parole de Dieu bien de choses, par les études, par révélation, par instruction, par doctrine. J'apprends bien de choses pour lesquelles je n'ai pas encore nécessairement atteint la maturité dans la pratique. Et chaque fois, la frustration de savoir que je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas encore mûri dans le caractère pour le faire au maximum. Et tous les jours, de regarder la parole qu'on s'apprête à enseigner aux autres et de se poser la question. Et toi-même, Atoms. C'est un miroir que je regarde chaque matin, chaque jour, chaque fois que je dois partager avec vous la parole. Je dois aller la regarder et dire, et toi-même, Atoms. Vous imaginez? Et que je dois en partager comme ça au moins 5 fois chaque semaine, sans compter les dimanches. Prédicateur de l'Évangile, on est tout le temps exposé aux vérités pour lesquelles on se pose la question. Et toi-même, Atoms, est-ce que tu le fais? Il y a bien le danger de commencer à cesser de devenir les destinataires de ces de nos méditations en se disant, non, ça c'est une prédication, c'est juste le Seigneur m'a révélé, c'est pour son peuple. Je veux juste prêcher. Sans se poser la question, est-ce que c'est passé par moi? Est-ce que moi-même, j'ai soit par aspiration, soit par expérience, soit par doctrine, l'une de 3 possibilités d'enseignement. J'enseigne soit par aspiration parce que c'est une chose que j'ai compris, je n'ai pas encore vécu, mais je pousse tout le monde à vivre ensemble avec moi. Mais j'enseigne aussi par doctrine. C'est une vérité, elle est fondamentale, elle est le corps de l'enseignement. Mais aussi j'enseigne par révélation, c'est une chose que j'ai apprise par le Saint-Esprit, j'ai compris. C'est un message prophétique à partager au peuple. Ça passe par moi pour toucher les autres. Mais je ne peux pas mettre de côté mon devoir et ma responsabilité quand je regarde la Bible de dire, c'est à moi que le Seigneur a parlé. Et quand je fais mes 100 pas dans la maison après avoir lu les textes, ce n'est pas Dieu comment je vais dire ça, mais Dieu comment je vais vivre ça, parce que c'est à moi qu'il a parlé. Faites-vous destinataire de cette parole. Deuxièmement, vous voulez appliquer la parabole, trouvez les équivalences dans le contexte contemporain. Vous voulez qu'une parabole reste dans votre vie pour que vous puissiez la pratiquer? Ne restez pas là en train de l'imaginer toujours à son époque. Ne restez pas seulement à l'époque, en ces temps-là, à cet endroit-là. Souvenez-vous, j'ai tout enseigné de ça. Passez aussi à aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant, dans notre époque. Je vous donne un exemple. Nous venons de lire ensemble ici une affaire de... Jésus donne la parabole de... Voilà la dette, les créanciers ainsi que les débiteurs. Ça serait quoi? Ça ressemblait à quoi? Le maître ressemblerait à quoi aujourd'hui? Ce serait un crédit lyonnais, je ne sais pas, une sorte de banque Lambert, je ne sais pas. Et ce serait la banque normale. Aujourd'hui, comment on paye les dettes? Si vous avez une dette de la banque, vous n'avez pas pu payer. Qu'est-ce que la banque fait? Moi, j'ai vu des gens, la banque récupère d'abord tout, hein. Et puis la banque t'envoie, il y a une procédure, hein. Tu peux aller en prison pour ça. Tu vas aller en prison pour ça. Donc, essayez de chercher les similitudes et vous dire, si cette histoire était racontée aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi? Pourquoi? Cet effort fourni te permet de voir la parole et les leçons de Jésus aujourd'hui. D'abord, au niveau de l'image, même pas encore de l'explication de la parabole, de sa signification spirituelle, mais juste au niveau du récit lui-même. Parce que le but de la parabole, n'oubliez pas, la parabole est un récit qui raconte les faits de la réalité actuelle. Alors, rendez cette parabole réelle, trouvez tant soit peu. J'aimerais déjà vous prévenir, tout ne serait pas parfait, mais trouvez tant soit peu des référentiels, des équivalents qui vous montrent que ce que Jésus a dit ressemblerait aujourd'hui à ceci. Pour que la parabole devienne réellement contemporaine. Vous imaginez, vous avez eu une dette de la banque, une grande banque, vous n'avez pas pu payer. La banque vous dit qu'on a annulé la dette. C'est parce que quand vous prenez ça, que vous vous rendez compte de l'importance du pardon. Vous allez à la banque, vous avez une grosse dette d'achat de la maison, je ne sais pas moi quoi, vous n'arrivez pas à payer, vous allez chez le banquier, la banque, bon, finalement, la banque décide que vous n'allez plus payer le crédit. La banque, au 21e siècle, une banque, c'est pas ce qu'on peut dire, ça. La banque, par quel mécanisme d'abord ils vont décider d'annuler ta dette? Mais c'est justement ça ce que Jésus aimerait qu'on ressente, que ce qui était impardonnable l'a été. Ce qui n'était pas acceptable a fini par l'être. Dieu Tout-Puissant, qui pouvait nous faire plus de mal que nous pourrions nous en faire aux autres, de qui nous avons tout reçu, et pour qui, si nous commettons de telles bêtises, c'est de l'ingratitude. Lui, Dieu, comme une banque qui ne vit que des crédits et des transactions, n'oserait jamais, aucun jour, se décider à l'occasion de rien, juste parce qu'ils ont pitié, de remettre ta dette, de dire que tu ne vas plus payer. Oh, je voudrais bien voir ça. Une banque te dit, bon, monsieur, on pense que tu n'arrives pas à payer ta dette de 100 000 $. Écoute, puisque tu nous l'as demandé, on a pitié de toi, écoute, tu ne vas plus payer. OK, rentre à la maison. Waouh, je voudrais bien voir ça. Mais c'est ce côté invraisemblable. Mais qui s'est produit? Il a réellement été pardonné. Et ça, ce qui s'est passé. Dieu, lui, a fait le nécessaire pour nous pardonner. Et maintenant, lui, va là où il a. Si vous regardez, vous lisez les textes dans nos autres paraboles pour comparer cela, vous regardez l'écart de ce que lui devait comme dette et de ce que l'autre lui devait comme dette. C'est plus d'une centaine de fois plus multiplié par 100. L'autre ne lui devait rien du tout. C'était presque rien. Lui, il n'est même pas une institution équipée de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a la banque annulé ta dette et toi, tu sors en cours de route, tu vois quelqu'un qui avait une petite dette de toi de 100 $, je ne sais pas, pendant qu'on a annulé ta dette de 100 000 $. Tu dis, écoute, tiens, justement, puisqu'on parle de dette, toi, tu avais ma dette. La Bible est intentionnelle. Jésus répète exactement les mêmes mots que cet homme avait dit au maître. Ce sont les mêmes mots qu'on lui a dit. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Le moment où son ami aussi est en train de lui demander la même chose, il dit, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre. Même chose, lui aussi s'était jeté à terre. Les supplia, même chose, lui aussi l'avait supplié, disant, aie pitié envers moi, même phrase, même mot, je te paierai. Même mot. Même mot. Il dit, le même pardon que tu me demandes, c'est exactement le même pardon que l'autre te demande. Ne pense pas que quand tu viens demander pardon à Dieu, tu demandes quelque chose de spécial qui est différent de ce que ton collègue, ton ami, ton prochain te demande le jour où il te demande pardon. Si tu penses que quand tu es devant Dieu, parce qu'il est Dieu, que tu lui demandes pardon, d'office, il est censé quand même comprendre, il comprend. C'est exactement la même substance de pardon que l'autre te demande. Avec ses faibles mots, avec ses à peu près, mais il te demande exactement le même pardon dont tu te sens digne de recevoir de Dieu. Vous voyez, quand vous contextualisez, quand vous prenez des équivalences de votre contexte actuel, la teneur de ces réalités devient encore plus parlante. Et enfin, que faire? Comment pratiquer cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? intégrer les vérités dans le langage quotidien. Parlez parabole. Apprenez à en parler. Que ça devienne dans votre langage de tout le jour. Quand vous priez, quand vous causez avec les amis. Trouvez un moyen de vous souvenir de ce qui a été dit. Si vous êtes dans une circonstance pareille qui ressemble à la Bible, dites-le. Ah, ça me rappelle telle circonstance de la parole. C'est comme ça que votre mémoire, votre vie, commence à être environnée, saturez votre vie des Écritures, mettez-les dans votre langage. Mettez ça dans votre vocabulaire. Commencez à parler le langage des paraboles. Priez dans vos moments de prière avec le langage de paraboles. C'est comme ça que toutes ces paraboles deviennent de plus en plus pratiques. Revenons à cette parabole. J'ai une question pour vous en finissant cette semaine et cette émission. Est-ce que vous pardonnez aux autres leurs offenses? Pasteur, j'ai pardonné. Je lui avais déjà dit que j'ai pardonné. Mais chaque fois que j'y pense, ça me fait mal. La Bible dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Le pardon, mes amis, c'est plus qu'un sentiment. C'est une décision à l'intérieur de son cœur. Mais cette décision est toujours émotionnelle. Elle est toujours émotive. Elle porte toujours des émotions. C'est-à-dire, tu ne ressens rien à l'origine pour pardonner, tu décides. Mais lorsque ce processus se fait, ton corps, ton système biologique et biochimique interne répond. C'est pour cette raison que des fois, quand quelqu'un pardonne quelque chose de dur, il pleure. Il pleure. Celui qui pardonne, mais il pleure. Parce que ça fait mal à l'intérieur. Ça fait très mal. Ça fait très mal le pardon. Ça fait très mal d'accorder le pardon. Imaginez-vous, n'est-ce pas que c'est aussi humiliant de demander pardon? Chaque fois dans ces textes, les deux fois où les gens demandent pardon, la Bible dit « se jette à terre », mais même pour là, on dit « se prosterne ». Regardez comment c'est humiliant d'aller demander pardon. Celui qui demande pardon est dans l'humilité, il est. Et celui qui doit donner pardon souffre parce qu'on lui a fait du mal. Mais Jésus dit, le pardon, c'est comme une dette. Et suivez-moi très bien, je vais donner une conclusion importante à cette affaire. Il dit, le pardon, c'est comme une dette. Celui qui emprisonne les autres par manque de pardon se fait emprisonner par Dieu par manque de pardon. Quand vous emprisonnez quelqu'un dans votre cœur, et vous ne voulez pas le pardonner, sachez-le très bien, que vous-même, vous vous mettez en prison de la même manière chez Dieu. Si vous allez voir votre frère qui ne vous a pas remis votre dette et vous allez l'emprisonner, le maître va en entendre parler. Il va appeler. La Bible dit, il a récupéré, il dit, viens. Il a jeté chez le bourreau, il a dit, jusqu'à ce que tu me payes aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Mais pasteur, bon, moi je vais demander pardon, je ne le sais pas. Est-ce que l'autre à qui tu avais dit foncièrement que tu l'avais pardonné, est-ce qu'il sait même si ton cœur l'a pardonné ou pas? Il ne le ressent pas, hein? Il ne le sait pas. Peut-être c'est dans les quotidiens qu'il ressent un peu. Comment toi tu sauras que le Père n'a pas pardonné non plus tes offenses? C'est seulement la parole qui nous en donne la garantie. Et là, la parole donne la garantie selon laquelle, si tu ne veux pas pardonner, Dieu non plus. Laissez-moi prier avec vous. Abba, pardonne nos péchés. Nous ne sommes que des hommes et nous avons tendance à interpréter chaque douleur émotionnelle comme si elle est tellement forte qu'on ne peut pas vivre avec. Jésus, toi, tu as connu la trahison des gens que tu as nourri, qui ont partagé ton quotidien, mais qui t'ont livré à la mort. Des familles pour lesquelles tu as fait des miracles qui ont pourtant crié « crucifie-le ». Seigneur, apprends-nous à ne jamais considérer un mal que nous subissons comme étant plus grand que le mal que nous commettons devant toi. À ne jamais se prendre pour plus juste que ceux qui nous font mal. Et chaque fois à venir devant toi en se disant « notre dette est toujours plus grande que ce que les autres nous doivent. » Apprends-nous à pardonner aisément. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.